Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Présence Midi en direct, nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner avec dans quelques instants l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Pour cela, je vais joindre par téléphone la responsable de la communication pour ce diocèse. Elle sera en duplex depuis Bayonne, c'est Violaine Ricourt-Dumas. C'est un mouvement reconnu par l'Église catholique, c'est ouvert aux couples. Ce mouvement s'appelle « Vivre et aimer ». Depuis 50 ans, ce mouvement agit pour une meilleure communication dans le couple. Anne-Rose Jankovic recevra les représentants de ce mouvement pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes aux alentours de 12h30. Et puis, on prendra un peu d'altitude avec Anne Lasserre pour le regard des écrivains sur les Pyrénées. Cette semaine, elle a décidé de nous parler, de recevoir un écrivain qui s'appelle Claire Dalzin. Voilà pour les grandes lignes de cette émission qui débute en musique avec Michael Field et juste après direction Bayonne pour l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Dans un instant, direction les Pyrénées avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. Mais auparavant, direction Bayonne.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Et c'est avec plaisir que je fais la rentrée avec Violaine Héricourt-Dumas. Bonjour Violaine.
Bonjour Gilles, bonjour à vous tous.
Très heureux de vous retrouver pour cette rentrée radiophonique. On se retrouvera donc tous les jeudis pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse. Et avant de parler de l'agenda des prochains jours, un mot du communiqué de Mgr Marc Caillé, l'évêque du diocèse, concernant les profanations dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron.
Tout à fait, vous en avez sûrement entendu parler. Cet été, on a eu beaucoup d'églises en Béarn et au Pays Basque qui ont été visées par une série de vols et de profanations, ce qui forcément affecte beaucoup nos communautés. Ça a commencé à Sauveterre de Béarn et puis après, il y a eu d'autres églises au Pays Basque, à Saint-Palais, à Bidache et dans des églises de Soule où parfois les hosties sont restées en place, mais parfois non. Et c'est vrai que pour nous, chrétiens, l'hostie consacrée... On peut pas la voler comme ça, donc c'est pour nous d'une grande gravité. C'est pour ça que l'évêque a fait ce communiqué que vous pouvez consulter sur le site du diocèse www.diocèse64.org où il rappelle l'importance de l'Eucharistie et du corps sacré de Jésus. Et donc à l'occasion de toutes ces profanations, bien sûr, il y a des messes de réparation qui sont prévues dans ces églises.
Voilà, communiqué à retrouver donc sur diocèse64.org. On bascule maintenant sur l'agenda avec ce week-end la fête de Notre-Dame de Sarance. Ça va se passer entre Oloron, Sainte-Marie et Sarance, ce pèlerinage.
Tout à fait, puisque le monastère de Sarance fait partie des paroisses autour d'Oloron. Et c'est chaque année, on fête Notre-Dame de Sarance autour du 8 septembre. Donc cette année, le week-end tombe sur 6 et 7 septembre. Donc dès samedi, il y aura un rendez-vous à la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie à 10h. Une marche est prévue jusqu'au monastère de Sarance. Et à 18h30, il y aura les vêpres, suivi de la vigile à 20h30. Et puis dimanche 7 septembre, c'est la fête de Notre-Dame de Sarance à proprement parler, avec à 11h la messe, puis l'apéritif, un pique-nique tiré du sac, et puis à 15h le chapelet et le chemin de croix proposé, suivi à 17h des vêpres. Donc tout cela avec la communauté, bien sûr, des prémontrés qui sont les moines présents dans ce monastère de Sarance. Ils sont maintenant un peu plus nombreux, ils sont je crois 5 ou 6 depuis maintenant 2 ans.
On va s'intéresser maintenant à un festival, le festival Ador, c'est proposé par les jeunes chrétiens à Bayonne.
Pour continuer dans l'élan du jubilé où on a eu la chance d'avoir de nombreux jeunes qui sont partis avec notre diocèse à Rome pour fêter donc le jubilé, voir le pape, eh bien l'aumônerie des étudiants de Bayonne propose une soirée pour tous les jeunes qui le souhaitent de 16 à 35 ans. C'est samedi, ça se passe au lycée Villa Pia de Bayonne. Pardon, qui se trouve 99 avenue du Maréchal Soult. C'est à Bayonne, mais les Béarnais sont bien sûr invités pour revivre ces moments intenses qu'ils ont pu vivre au jubilé, et même aussi les jeunes qui ne sont pas venus au jubilé sont invités, donc avec apéritif, stand de témoignage, dîner tiré du sac et adoration. Tout cela se passera donc au lycée Villa Pia et se terminera à l'église Saint-Amand qui est juste en face, donc à l'invitation des étudiants de Bayonne. N'hésitez pas à venir à ce festival Ador, c'est la 2e édition. Il y en avait eu un déjà l'an dernier qui avait remporté pas mal de succès. Donc rendez-vous samedi à partir de 17h pour tous les jeunes qui le souhaitent.
À l'occasion de cette rentrée, des messes d'installation des nouveaux curés sont proposées dans votre diocèse. C'est le cas autour de Pau à Bière.
Et oui, c'est la rentrée et souvent de nouveaux curés s'installent. Alors là, ce sont des administrateurs paroissiaux qui deviennent curés. Donc nous avons à Bière dimanche l'abbé Andrea Nasciato qui va être installé comme curé de la paroisse Sainte-Marie de Bière. La messe sera bien sûr présidée par notre évêque, Mgr Marc Caillé, dimanche à 10h30. Et puis il y aura également donc l'après-midi à 16h30, ce sera la messe d'installation de l'abbé Alexandre Méré à l'église Saint-Laurent de Pontac. Pontac qui se situe pas très loin de Lourdes, donc nouveau curé de la paroisse Notre-Dame de Lousse. Il était administrateur de la paroisse depuis déjà un an. La messe sera donc, elle aussi, présidée par Mgr Ayet à 16h30 en l'église de Pontac, donc pour l'installation du curé.
Voilà, à Pontac, vous l'avez dit, entre Lourdes et Pau. Nouvelle étape dans la vie du sanctuaire Notre-Dame d'Abette ce lundi 8 septembre en la fête de la Nativité de la Vierge Marie.
Et oui, on a la chance dans notre diocèse d'avoir plusieurs sanctuaires et le sanctuaire Notre-Dame d'Abette qui se trouve près de Lahontan, Puyot, est un sanctuaire où chaque année, que ce soit au 15 août ou le 8 septembre, il y a une fête pour Notre-Dame d'Abette, et donc c'est un grand moment cette année puisque le sanctuaire est élevé au rang de sanctuaire marial de façon officielle avec un nouveau recteur qui sera l'abbé Bernard Faure, qui était le curé de la paroisse, qui devient donc le recteur du sanctuaire. Il va habiter sur place au sanctuaire. Donc il y a toute une manifestation durant toute la journée de lundi. À partir de 10h, on peut venir répéter avec la chorale. La messe sera à 10h30, présidée par notre évêque, avec donc la présentation de l'abbé Faure comme recteur du sanctuaire. Et puis, à 12h30, on aura un buffet partagé. Et l'après-midi, à 15h, une conférence sur l'historique de ce sanctuaire, donc Notre-Dame d'Abette, suivie à 16h des vêpres. Donc, toute la journée, vous êtes conviés pour venir fêter l'élévation de ce sanctuaire Notre-Dame d'Abette au rang de sanctuaire marial avec son nouveau recteur.
Voilà, et vous l'avez dit, ce sanctuaire Notre-Dame d'Abette se trouve sur la commune de Lahontan, dans le Béarn. Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Diocèse64.org, le site internet, vous permettra, si vous vous connectez, de retrouver toutes ces informations et plus largement toute l'actualité du diocèse. Un grand merci, Violaine Ricourt-Dumas. Voilà, une nouvelle saison radio démarre avec vous. On se retrouvera donc chaque semaine donc sur les antennes de Radio Présence. Très belle journée à Bayonne et à très vite.
Merci beaucoup, bonne semaine à vous.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des Assurances. Plus d'informations sur leur site.
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi à suivre dans les prochaines minutes. Direction les Pyrénées avec un auteur qu'a sélectionné cette semaine, Anne Lasserre. Le regard des écrivains sur les Pyrénées. Et puis juste après, on va découvrir ou redécouvrir un mouvement reconnu par l'Église catholique. Ce mouvement s'appelle Vivre et Aimer. Les représentants du diocèse de Tarbes et Lourdes seront en studio. Au micro plus précisément d'Anne-Rose Jankovic. Sans oublier à 12h30 en point complet sur l'actualité régionale avec Le Journal.
Regard au fond du mien, et de l'amour qui me revient, des souvenirs qui pleurent en moi, mais on n'a plus le temps pour ça. Bien sûr que je n'étais pas tendre, je ne savais pas comment m'y prendre. Avec l'amour, avec l'enfance, je ne parlais que par silence. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Le père qu'on a. Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père d'être un homme? Un homme qui te dira, ma fille, je t'aime, qui t'apprendra à faire de même, qui te tiendra encore la main quand tu voudras pleurer pour rien. Pour toutes les fois où j'étais là, quand tu avais besoin de moi, en te donnant ce que j'ai pu, ce que j'avais, en quoi j'ai cru. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. que l'on pardonne à son père d'être un homme, les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme? Personne, on se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme, un homme.
Extrait du spectacle musical Bernadette Delourde, à l'instant c'était N'être qu'un homme.
Radio Présence à Gourdon 104.8.
Bonjour Anna Lacéa.
Bonjour Philippe.
Tranquillement installé dans les studios de Radio Présence, comme chaque semaine, on part dans les Pyrénées. Le concept, bien sûr, c'est à travers un ouvrage que vous avez sélectionné. Aujourd'hui, on va parler de photos, mais et toujours fidèle au poste.
Oui, c'est la deuxième année, oui.
Toujours, ben voilà. Est-ce que vous avez appris des choses? Parce que vous avez fait cette thèse là, sur la perception des Pyrénées. Donc vous aviez déjà pas mal de connaissances hein, sur les Pyrénées à l'époque, à une certaine époque, hein, à travers le temps d'ailleurs. Hein.
Oui.
Est-ce que malgré tout aujourd'hui vous apprenez toujours des choses?
Toujours, Philippe, parce que par exemple là on va parler du Haut-Aragon, et moi j'ai beaucoup travaillé sur les Pyrénées françaises, c'est pour cela que c'est
le versant espagnol un peu moins.
Voilà, le versant espagnol, je le connais moins,
oui.
Je le découvre effectivement au fur et à mesure de certaines chroniques, quand nous faisons une incursion en Espagne.
Espagne,
par exemple.
Et lorsque vous lisez ces livres, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude au bout d'un certain temps, non?
Non, parce que tout d'abord, ils sont souvent, quand on prend des livres, quand on prend la machine à remonter le temps, ils sont souvent le reflet d'une époque, d'une mentalité, d'une façon de percevoir les montagnes, comme on l'avait vu dans cette chronique.
Qui était fort intéressante d'ailleurs.
Voilà. Et il y a toujours quelque chose à découvrir à travers le regard de quelqu'un d'autre, finalement.
Ouais. Et voir les Pyrénées, comment elles étaient. À l'époque, c'est vrai, vous appreniez que les Pyrénées ont resté en bas. C'était horrible, ça faisait peur. Il y avait plein de légendes. Et puis, on ne gravissait pas du tout. On ne faisait pas de ski, rien.
Ah non, il faut attendre, je crois, 1903 pour que la première paire de skis arrive dans les Pyrénées.
Au début du XXe siècle,
oui. Oui, pendant longtemps, elles étaient le repère... au 18e, du diable, des sorcières.
C'est incroyable, hein?
Oui.
On a du mal aujourd'hui, à le percevoir que c'est pas si vieux que ça, quoi. C'est un siècle, le ski, quoi.
Voilà, et encore au 19e siècle, il y a des gens qui affirmaient qu'ils avaient vu des sorcières traverser le ciel en chevauchant un dragon ou un animal monstrueux.
Remarquez, si on reprend le texte de la jeune dame qui franchissait les Pyrénées avec la tenue, on aurait pu la prendre pour les sorcières.
Oui, exactement. Là.
Alors, quand on évoque les Pyrénées, et on parle de Russell, bien sûr, de Wallon, de Schrader, du comte Saint-Saud, etc. Et on oublie souvent Lucien Brier.
Oui, il faut dire, Philippe, que tous les pyrénéistes que vous avez cités l'ont un peu précédé. Lucien Brier, lui, est né en 1860 et 29 ans plus tard, avec son appareil photographique, il se lance à la découverte des Pyrénées.
Ce nom est plutôt associé au versant sud des Pyrénées.
Voilà. En effet, car à partir de 1902, il se laisse attirer par le Haut-Aragon, qu'il va parcourir pendant une dizaine d'années, et il en rapporte des photographies exceptionnelles.
Il publie aussi de nombreux articles et donne des conférences qu'il accompagne de projections photographiques. Ce sont ces méthodes de travail que vous évoquez aujourd'hui. Donc on vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Claire Dalzin et bibliothécaire au musée Paul Dupuy à Toulouse. Elle a consacré un ouvrage à Lucien Brier, qui au début du XXe siècle découvre et photographie le Haut-Aragon. Tous les ans, entre les années 1902 et 1911, il quitte Charly-sur-Marne, où il habite, pour visiter, explorer cette région pyrénéenne, qui apparaît alors comme bien méconnue. Claire Dalzin s'intéresse entre autres aux méthodes de travail de ce pyrénéiste, même si Lucien Brier reste très discret à ce sujet. Nous savons, par les abondantes citations qui émaillent Superbes Pyrénées, écrit Claire Dalzin, que Lucien Brier a lu tous les grands pyrénéistes du XIXe siècle. Il avait d'une part constitué une bibliothèque remarquable qui fut malheureusement dispersée à sa mort. Il avait d'autre part consulté ses ouvrages sur place, à Gèdres, et en avait relevé des passages. Il ne s'agit pas d'une lecture documentaire, mais d'une immersion profonde dans ce monde qu'il découvre et assimile instantanément. Il arrive en Haut-Aragon après les pyrénéistes de la Pléiade qui ont, entre les années 1870 et 1890, effectué un travail cartographique considérable. Mais s'il se réfère et rend hommage à ses découvreurs, il n'hésite pas à rectifier leurs erreurs ou à compléter leurs descriptions par les informations neuves dont il dispose. On sent bien là un refus de révérence devant une quelconque autorité morale, un désir non de rivaliser, mais de se placer, par le sérieux de son travail, sur un pied d'égalité avec ses grands auteurs. Seul Ramon, peut-être parce qu'il l'a lu très jeune, lui inspire une admiration sincère. Mais s'il ne pratique pas l'humilité, il est d'une grande honnêteté intellectuelle, et s'il peut offrir le luxe de contredire ses prédécesseurs, c'est qu'il s'en donne les moyens, travaillant sérieusement et avec méthode. Les précieux carnets de notes conservés au musée pyrénéen révèlent un travail de fourmi. En ce qui concerne la préparation de ses expéditions, nous savons, grâce à plusieurs passages de Superbes Pyrénées, qu'il transportait toute une documentation sur les lieux visités, en particulier les écrits de ses devanciers, qu'il cite parfois, et dont il n'hésite pas donc à rectifier les erreurs. « Je n'hésite pas à le répéter, écrit-il, la carte des Pyrénées centrales est à refondre dans ses détails, comme dans ses grandes lignes, des temps nouveaux exigeant des œuvres nouvelles en rapport avec le progrès accompli. » Le soir, à l'étape, il s'isole et travaille. Il ordonne ses matériaux et met en forme les réflexions que lui inspirait le trajet de la journée. Cette ébauche lui permet ensuite de se livrer à l'écriture proprement dite dans son bureau de Charly, où il peut à loisir recréer dans le calme les émotions précieusement ramenées d'Espagne. Et s'il a un doute, le réseau d'amis et de connaissances qu'il tisse au fur et à mesure de ses voyages vient à son aide. On le voit ainsi écrire à un certain Antonio Galve afin qu'il lui indique la situation d'une cueva près d'Abissanda. La réponse, agrémentée d'un plan d'accès détaillé, est conservée au musée pyrénéen. Dans cet ensemble de matériaux, les photographies, qui sont aujourd'hui la partie la plus connue de l'œuvre de Brier, semblent avoir un rôle essentiellement illustratif et documentaire. Si Brier parle peu de son travail d'écriture, il est quasiment muet sur son travail de photographe. Il consacre en tout et pour tout un paragraphe de Superbes Pyrénées à décrire la façon dont il change les plaques de verre de son appareil, et encore il se met en scène de façon quelque peu ironique. « Je changeais mes plaques, écrit-il, dans l'alcôve que j'occupais. Cette besogne m'horripilait dès qu'il me fallait l'accomplir. Je devais d'abord me réveiller moi-même au milieu de la nuit, me lever, monter ma lanterne rouge. Puis, après avoir sorti les châssis du sac contenant l'appareil, préparer des chemises pour les clichés impressionnés et des cordelettes pour ficeler les boîtes 18-24 entamées qui auraient pu s'ouvrir par inadvertance. Le pis, c'était de déballer le tout et de le remballer à même un lit de fibres de bois en vue d'éviter la casse, voire les moindres frottements. Combien de fois, brisé de fatigue et contraint de partir à l'aube, j'ai pesté contre Niepce et Daguerre et leur merveilleuse invention. Il est un peu plus prolixe dans ses chroniques alpines où nous apprenons qu'en juillet 1905, la chaleur devient telle que le bois de son appareil joue comme s'il se trouvait sous les tropiques. Les rideaux de ses châssis se collent et il a de la peine à les tirer. L'appareil, les plaques de verre et les papiers sont transportés bien à l'abri dans des cantines de fer que Brier a ramenées de son service en Afrique du Nord et arrimées sur les mules à l'espagnol à l'aide d'un entrecroisement de sangles et de cordelettes. Lucien Brier est connu pour ses talents de photographe. Ses clichés sont les témoins précieux d'un monde vieux de plus d'un siècle, mais c'était une époque où la photographie exigeait de transporter de lourdes charges, puisqu'on utilisait des plaques de verre. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Claire Dalzin, ouvrage intitulé « À travers le Haut-Aragon dans les pas de Lucien Brier, 1902-1911 », et publié par les éditions Kern en 2007.
Merci à Anne Lasserre. Voilà pour le regard des écrivains sur les Pyrénées. Anne Lasserre et Philippe Sibercas dans les retrouvera donc toutes les semaines sur Radio Présence. À suivre dans un instant, c'est le journal régional et puis juste après les invités d'Anne-Rose Jankovic, on va parler de ce mouvement Vivre et Aimer.
Dans la cité mariale, 96.
Voilà, un petit problème informatique qui nous amène à retrouver le journal régional.
Bonjour à tous. La Haute-Garonne placée en vigilance jaune ce jeudi 4 septembre pour risque d'orage. Selon Météo France, les perturbations arriveront par l'ouest dès la matinée. Après un mercredi estival, tous les secteurs ne seront pas touchés de la même manière. Le frontonnet sera le plus concerné avec des cumuls de pluie pouvant atteindre les 10 mm. Sur la plaine toulousaine, le risque reste limité, voire quasi nul dans le Volvestre et le Lauragais. Ailleurs, on attend 2 à 3 mm sous averse. Dans l'après-midi, l'atmosphère restera instable, mais Toulouse ne se retrouvera pas dans l'axe principal de la perturbation. À Toulouse, un périmètre de sécurité a dû être installé ce mercredi 3 septembre en début d'après-midi après la rupture d'une canalisation de gaz Grande Rue Saint-Michel. Une fuite de gaz inflammable s'est produite, mobilisant pompiers, policiers et techniciens de GRDF. Par précaution, la station de métro Saint-Michel-Marcel-Langer sur la ligne B a été évacuée pour vérifier toute présence éventuelle de gaz. Les mesures réalisées à l'extérieur comme à l'intérieur se sont révélées négatives et une fois la fuite maîtrisée, le trafic a pu reprendre normalement sur la ligne B. Plus de peur que de mal, mais l'incident a rappelé l'importance des procédures de sécurité dans un secteur aussi fréquenté. À Toulouse, les vélos en libre-service n'ont jamais autant séduit. En un an, le nombre d'abonnés à Vélo Toulouse a doublé, atteignant aujourd'hui près de 65 000 utilisateurs. L'arrivée des vélos électriques orange aux côtés des vélos mécaniques roses a profondément changé la donne. Plus rapide, plus confortable et accessible via une application simplifiée, il permet de réduire considérablement les temps de trajet. Pour de nombreux usagers, c'est devenu un mode de transport quotidien, notamment pour les trajets domicile-travail. Un exemple, 15 minutes à vélo compte 40 à pied et 25 minutes en transport en commun. L'assistance électrique permet aussi d'allonger les distances parcourues, rendant l'usage pertinent bien au-delà du centre-ville. Fort de son succès, Tissé au prépare une nouvelle étape, l'ouverture de 45 stations supplémentaires d'ici la fin septembre, notamment à Balma, Tournefeuille et Blagnac. Objectif affiché, répondre à la demande croissante et accompagner le changement des habitudes de déplacement des Toulousains. Visite inattendue dans le Lot ce jeudi 4 septembre. Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, sera en déplacement officiel dans le département. Une visite qui intervient à seulement 3 jours du vote de confiance à l'Assemblée nationale, susceptible de provoquer la chute du gouvernement Bayrou. Un contexte plus qu'incertain, d'autant plus que les deux députés du Lot, Christophe Proença et Aurélien Pradier, ont déjà annoncé qu'ils voteront contre le maintien du Premier ministre. Malgré cette atmosphère tendue, la ministre entend dérouler un programme chargé. Visite de l'entreprise Soben à Cahors Sud, spécialisée dans les amortisseurs et la robotique. Puis déplacement à Prayssac, à la préfecture de Cahors, pour un déjeuner avec les élus. Avant de poursuivre vers Saint-Céré et de conclure à Carsensac-Sarrazac, une tournée express dans un département où les enjeux de la ruralité sont particulièrement scrutés. Et puis à Toulouse, une conférence originale autour de la conception africaine de la personne humaine. Elle est proposée par la chaire Jean Rodin et animée par l'abbé Xavier Ngandoul, docteur en théologie morale et directeur du séminaire de Ziguinchor au Sénégal. Au programme, une réflexion sur la richesse des cultures africaines, leur vision de la dignité et de la complexité de l'existence humaine, mais aussi la manière de réconcilier ces héritages avec des codes universels. Une rencontre pour mieux comprendre comment tradition et humanisme se rejoignent au service du développement des peuples. Cette conférence aura lieu le lundi 8 septembre à l'Institut catholique de Toulouse. Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'adresse mail suivante aude.bernard@ict-toulouse.fr.
Voilà pour l'actualité régionale. Prochain point sur l'info dès 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican avec les studios qui sont à Rome. Ce sera donc dans moins d'une demi-heure. Allez, dans les prochaines minutes sur Radio Présence, eh bien, on va parler de ce mouvement Vivre et Aimer avec les invités d'Androse Jankovic.
Radio Présence à Figeac, 97.7.
Bonjour Hélène et Thomas Barbier.
Bonjour.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes tous les deux membres du mouvement Vivre et Aimer, un mouvement que vous allez nous présenter aujourd'hui. Puis vous allez nous donner un petit peu votre témoignage, pourquoi vous êtes engagé dans ce mouvement Vivre et Aimer, qu'est-ce que ça vous apporte. Et puis nous terminerons cet entretien en faisant un petit coup de projecteur sur une soirée que vous proposez le 25 septembre prochain. Alors Vivre et Aimer, c'est un mouvement pour les couples. L'objectif, c'est d'aider, de soutenir, d'accompagner les couples. Alors, voilà la présentation que moi, aujourd'hui, je peux en faire, mais vous êtes là aussi pour nous en dire un petit peu plus. Comment vous présenteriez ce mouvement Vivre et Aimer ? Hélène.
Alors, Vivre et Aimer, c'est un mouvement qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Quand nous étions jeunes mariés, nous avons fait partie pendant assez longtemps des équipes Notre-Dame, qui nous ont fait beaucoup progresser. Et puis ensuite, voilà, on a un petit peu délaissé ce mouvement, pris par d'autres choses. Ensuite, nous avons fait de la préparation au mariage en paroisse, qui nous a encore fait retravailler la question du couple. Et puis là aussi, nous avons laissé la place à d'autres. Et puis, nous nous sommes aperçus qu'au fil du temps, peut-être notre relation, notre communication n'était pas celle que nous souhaitions. Et des amis nous ont proposé de faire une session Aimer dans la durée. Et cette session nous a permis de découvrir le mouvement et de rentrer dans une équipe. Et ce qui a énormément enrichi notre couple et fait avancer notre relation, et je dirais permis peut-être à notre couple de se déployer encore, parce que c'est l'œuvre de toute une vie.
Donc c'est l'objectif vraiment de Vivre et Aimer, de d'accompagner les couples à un moment où, alors peut-être il y a un petit peu de, alors j'allais dire le mot lassitude, mais c'est peut-être pas très très juste, en tous les cas où eh bien il y a des choses qui peuvent être plus compliquées. C'est à ce moment-là qu'intervient Vivre et Aimer, Thomas?
Non, en fait, pas spécialement. Finalement, c'est la pédagogie, l'approche va concerner les couples, mais à toute étape de la vie, donc aussi bien au bout de quelques mois de mariage, et puis après décennie, et même quand on devient plus senior. Voilà, alors après, c'est vrai que c'est pas une approche qui est adaptée à des couples qui sont en difficulté ou en grande difficulté. Là, il faut se tourner vers d'autres types d'associations ou de supports, mais c'est plutôt un mouvement et une approche qui est basée finalement sur ce qu'on vit au quotidien. C'est très basé sur la vie de tous les jours. C'est ça, c'est le fait d'avoir cette inspiration ignatienne. Mm-hmm. et on part de là pour apprendre à se décoder mieux, à se connaître mieux, même après des décennies.
C'est un mouvement international. En France, il y a plus de 2400 couples qui sont adhérents. Ça veut dire plus encore qui ont vécu des sessions vivre et aimer, bien sûr. D'après vous, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces couples, dans ce mouvement? Alors, vous avez déjà un petit peu répondu, mais je voudrais qu'on aille quand même un peu plus loin. Ils sont en quête de quoi, ces couples qui viennent frapper à la porte de vivre et aimer?
Je pense qu'aujourd'hui, l'amour durable, c'est une vraie question, en fait. Je pense que c'est un défi aussi à relever, parce que voilà, je pense que quand on s'engage dans un couple, dans le mariage ou même dans une vie à deux, on a tous le désir de durer. Et puis aujourd'hui, il y a peut-être plus de tentations. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui nous aspirent. Et vivre aimé, ça peut aider à mettre le couple en priorité, à vraiment prendre cette décision d'aimer, avec également des clés. C'est-à-dire que dans Vivre Aimé, il va y avoir une méthode pour communiquer en profondeur, en vérité, et peut-être mieux se connaître soi-même et mieux aussi comprendre comment mon conjoint fonctionne, peut-être avec son passé, ses blessures, qui font que voilà, dans telle situation, on va réagir de telle façon. Et c'est vrai que le but de la pédagogie de vivre et aimer, c'est de s'aimer en vérité. Et puis, comme il y a aussi, je dirais que c'est un mouvement de la pastorale familiale, le but ultime, c'est d'arriver à nous aimer comme le Christ nous a aimés. Mais ça, c'est le but ultime. Voilà.
Alors, vous voulez dire peut-être par là que, Hélène, que, eh bien, on entend bien le besoin, et on entend aussi que c'est un peu la méthode, la pédagogie de vivre et aimer, de se dire les choses pour se connaître, pour vraiment se dévoiler en vérité face à celui avec qui on a choisi de vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, eh bien, on se lance comme ça dans le mariage, dans la vie de couple, on croque la vie à plein dedans, on se jette dans la vie, la famille se construit, et puis on n'a pas pris le temps. C'est pas forcément qu'on voulait cacher quelque chose à son conjoint, mais on a estimé au début que c'était pas nécessaire de le dire, et puis en fait, finalement, il y a un moment où c'est nécessaire de tout dire.
Oui, alors nous, on a découvert quelque chose dans la pédagogie de vivre et aimer. On va célébrer ce mois-ci nos 39 ans de mariage. Et bravo. Vivre et aimer, je pense que voilà, ça fait 7 ans qu'on a rejoint le mouvement. Et lors de la première session, on a abordé des thématiques qu'on n'avait jamais abordées ensemble.
Par exemple
La thématique de la mort, de l'un ou de l'autre. Et je pense que c'est pas un sujet facile. Et même quand on se prépare au mariage, c'est vrai qu'on est tout jeune, on pense pas à ces choses-là. Et en même temps, c'est important de prendre conscience de ça, de prendre sa place, sa juste place, et d'envisager toutes les situations sereinement. Et dans la communication, ce qu'on va faire avec Vivre Aimé, c'est qu'on va pas utiliser le tu qui tue, mais plutôt dire dans telle situation, c'est pas tu m'as blessé, c'est dans telle situation. Voilà moi ce que moi j'ai ressenti pour que tu me comprennes et que tu comprennes ton comportement qui m'a peut-être blessé involontairement.
Thomas, est-ce que vous voulez réagir à tout ce que dit Hélène? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, alors effectivement, bon, comme tu as dit, Hélène, là, ça fait finalement, on n'avait plus de 30 ans de mariage quand on a découvert donc vivre et aimer, et puis donc on est allé grâce à des amis à une première session. Et malgré le fait qu'on se soit toujours beaucoup intéressé au sujet du couple, notamment à travers nos engagements avant, moi personnellement j'étais complètement bluffé par l'approche, complètement nouvelle. Voilà, comme je disais tout à l'heure, donc qui s'appuie sur le vécu, les détails de tous les jours, mais à travers laquelle on apprend à partager nos sentiments. Et sans que ça soit cliché, c'est peut-être un peu plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Bon, c'est ça, c'est une réflexion personnelle. Mais en tout cas, j'étais complètement étonné. Et cette journée a fait que on a eu vraiment envie d'aller plus dans ce mouvement et de continuer, puisqu'on a découvert effectivement une méthode de communication. Et on a effectivement eu l'occasion d'échanger sur beaucoup de sujets. Que finalement dans la vie de tous les jours on prenait pas forcément le temps d'aborder, voilà, donc déjà prendre le temps pour son couple, c'est rien que ça, c'est déjà un sujet à lui tout seul.
Donc vivre et aimer, c'est une spiritualité, c'est une pédagogie. Il y a aussi une sorte de méthode, hein, puisque je crois qu'il y a une histoire de lettres à s'écrire, d'abord à apprendre à écrire à l'autre. Vous pouvez nous parler de ça? Comment ça se passe?
Oui, alors effectivement, il y a une méthode, voilà, donc avec une lettre.
Oui, il ne s'agit pas simplement de dire tout d'un coup, bon, bah maintenant je vais tout dire, on va tout se dire.
Et donc, dans le vocabulaire du mouvement, on appelle ça une lettre d'amour, hein, c'est très beau. Et cette lettre, en fait, elle suit une trame qui a été structurée justement pour bien pouvoir exprimer ses sentiments vis-à-vis d'une situation et d'une manière toujours très respectueuse donc de son conjoint et puis l'écrit, le fait de passer par l'écrit, alors c'est pas de la littérature, hein, c'est des choses très très simples, hein, voilà, on n'a pas besoin d'être écrivain pour s'écrire une lettre, mais fait faire au cerveau un peu un exercice de tri, pour se poser, essayer de mettre les mots justes de ce qu'on ressent. Et du coup, après, on apprend avec cette lettre à se la partager, à se la commenter, à s'interroger l'un et l'autre sur chacune de nos lettres. Et c'est à travers cet outil que l'on va pouvoir effectivement mieux cerner le ressenti de l'autre. Et aussi exprimer soi-même ce qu'on a ressenti dans telle et telle situation précise.
Donc ce travail d'écriture et puis de lecture pour recevoir ce qu'a écrit l'autre, il dure quand même, il s'étale sur un temps assez long.
Non, c'est pas l'idée. C'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir communiquer sur un épiphénomène, éventuellement, enfin, une toute petite chose très précise qui s'est passée la veille, le matin, voilà, quelques jours avant. Et ça va être très court, hein, c'est-à-dire que c'est moins d'une demi-page, éventuellement, ou guère plus. Et puis, on va pouvoir échanger. Donc, c'est très factuel. Alors, ça évite d'élaborer voilà, ou de cristalliser sur des situations, etc. Et on peut s'en écrire tous les jours. Quoi,
donc le mouvement Vivre Aimé vous apprend à le faire, et après c'est quelque chose c'est un outil que vous utilisez dans votre vie. Donc vous le faites, c'est-à-dire que je ne sais pas moi, si vous avez rayé la voiture Hélène, ou le contraire Thomas, si vous avez rayé la voiture et que vous n'osez pas lui dire, vous pouvez lui écrire.
Tout à fait.
C'est ce genre de choses.
Oui, alors on peut s'écrire sur des faits qui se sont passés, qui sont peut-être un petit peu source de tension, mais on peut s'écrire aussi sur des événements joyeux. Par exemple,
c'est bien de le dire ça.
Voilà, il nous est arrivé quelque chose d'important et on se dit, ben, on va s'écrire parce que si c'est joyeux, on va quand même pas le ressentir de la même façon. Mmh. Et c'est bien de comprendre comment Thomas y réjouit, comment moi je me réjouis de cette chose-là.
Quel témoignage vous recevez? Alors vous, ça fait déjà 7 ans, hein, c'est ça, que vous êtes dans le mouvement. On imagine que vous rencontrez de temps en temps des jeunes couples qui arrivent à une session, qui veulent peut-être après la session aller plus loin et s'engager comme vous vraiment durablement dans le mouvement. Quel retour vous en avez? Qu'est-ce qu'ils partagent avec vous? Quel est leur témoignage sur ce qu'ils vivent depuis qu'ils ont découvert Vivre et Aimer? Qu'est-ce que ça apporte vraiment?
Moi, je dirais juste en deux mots, puis je te passe la parole.
Ah, les deux veulent parler, là.
Non, le matin, comme toujours dans ces types de sessions, les gens arrivent, marchent un petit peu sur les œufs, savent pas trop et tout. Et après, le soir, ils repartent tous avec une banane, pas possible. Et rien que ça... Voilà, ça c'est notre...
Vous avez des jeunes couples aussi vous avez vraiment tous les couples qui viennent à ce genre de session? Oui, Hélène.
Alors en fait, pour les sessions, il y a deux types de sessions. Il y a la session aimée dans la durée, qui est plutôt pour les couples qui ont déjà un peu une expérience de terrain, je dirais quelques années de vie commune. Et puis il y a la session amour et engagement, qui est plutôt pour les couples plutôt qui vont aller vers le mariage ou vraiment prendre un engagement. Et nous, on a récemment été couple support pour une session amour et engagement à Montauban. Et donc là, on a vu le cheminement des couples sur ce week-end-là. Et en fin de week-end, on a eu un temps d'échange avec, 6-7 couples qui ont été vraiment très étonnés. Parce que dans ce type de session, il y a 3 couples qui donnent des témoignages très personnels. Donc, ils se livrent vraiment. Mmh. Et l'idée, c'est de se dire, nous, ce qu'on a vécu dans telle situation, il y a certainement plein d'autres couples qui le vivent également. Et ça peut permettre de proposer des cheminements, des portes de sortie, des outils pour traverser ça. Et ces couples-là nous ont dit, mais vraiment, c'est un cadeau que vous nous faites de partager des choses aussi intimes et profondes.
Oui.
Voilà. Donc là, on n'est vraiment pas dans le spirituel, on est vraiment dans le vécu du couple dans toutes ses dimensions, en fait.
Vivre aimé, ce n'est pas seulement pour des couples chrétiens engagés dans l'Église. C'est un mouvement qui peut aussi accueillir des couples qui ne sont pas forcément engagés dans l'Église ou...
Alors là, par exemple, pour le week-end, il y avait la plupart des couples qui se préparaient au mariage, mais avec peut-être certains qui ont un lien avec l'Église.
Oui.
Le conjoint, pas forcément.
Oui, ça c'est important.
Donc je dirais que la spiritualité, elle n'a pas du tout été évoquée au cours du week-end. Mais à la fin du week-end, il y a une messe qui est proposée. Mmh. Et tous les participants sont restés pour la messe. Donc c'est aussi, je me dis, on peut... dire un petit peu ce que disait le pape François, aller chercher les gens qui sont parfois à la périphérie.
Et elles sont aussi là, les périphéries, dans la préparation au mariage, dans l'accompagnement du couple.
Voilà. Et là, je me dis, il y a un sacré chemin qui a été fait en 48 heures. Là. Mmh.
Mais cela dit, pour vous, votre engagement à vous, alors là, on bascule plus sur le témoignage personnel, mais votre engagement à vous dans ce mouvement Vivre et Aimer, pour vous, c'est un engagement d'Église. Vous le vivez avec votre foi, certainement.
Alors le spirituel, je dirais que c'est plutôt, c'est peut-être pas là où je vais venir, enfin vivre une relation spirituelle intense, mais je dirais vivre, mieux vivre mon sacrement de mariage, le sacrement de mariage qu'on s'est donné, où le Seigneur est vraiment présent. Je me dis, si j'aime mieux Thomas dans les petits gestes, les petites phrases du quotidien, je me dis c'est vraiment là la volonté de Dieu, mais c'est dans le concret là. On est vraiment dans le concret.
Thomas ?
Oui, effectivement. Pendant que tu parlais, Hélène, je pensais à la même chose. C'est-à-dire que la jonction entre ce mouvement et ma foi, personnellement, c'est à travers effectivement le sacrement de mariage. C'est-à-dire que en étant dans ce mouvement, en travaillant notre communication, etc., j'essaye d'aimer un peu mieux tous les jours Hélène. Et dans ce sens-là, je continue de dire oui à mon sacrement, celui qu'on s'est donné il y a 39 ans.
Oui, c'est tenir dans l'engagement, tenir dans son engagement sur la durée et toujours approfondir le sens profond de ce sacrement du mariage.
Voilà, toujours avec plus de joie.
Tout à l'heure, vous avez dit, Hélène, mettre vraiment le couple en priorité.
Oui.
Peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a certains qui disent, oui, c'est bien joli tout ça, mais une fois qu'on a un, deux, trois, voire plus d'enfants, qu'il faut éduquer, qu'il faut accompagner, qu'il faut aussi éduquer à l'amour, le travail de l'un et ou de l'autre, tout ça qui prend beaucoup de place, c'est bien joli, mais concrètement... c'est du rêve, le couple en priorité, comment on fait dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette appréhension-là?
Là, je pense que c'est vraiment une décision à prendre. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut prendre une décision. Enfin, on s'est peut-être marié et puis on se dit ça va rouler tout seul.
Ça ne roule pas tout seul.
Ça ne marche pas, ça. Ouais. Même si on a de la bonne volonté, même si... Enfin, je me dis, c'est... Et puis, la relation, ce n'est pas... que des sentiments, hein. Il faut aussi mettre des moyens, des vrais moyens concrets. Donc le temps, c'est vrai que tout le monde court après le temps, et je pense que vraiment nos téléphones, nos ordinateurs, sont vraiment peuvent parasiter le couple vraiment avec l'ordinateur qui vient dans le lit conjugal parfois. Donc il y a vraiment énormément de parasitage.
Mais sur cette question-là précisément, vous avez des couples dans cet état-là, enfin qui arrivent parce que finalement les choses se sont envenimées parce que le téléphone, l'ordinateur, tout ça a pris beaucoup trop de place et finalement, sans le vouloir et sans apercevoir, eh bien une distance s'est créée. Vous avez ce genre de problème ?
Moi, j'ai pas trop l'analyse des couples qui arrivent à vivre aimé. J'ai un petit peu du mal à répondre à cette question-là, mais on le remarque dans le couple, dans les couples de nos enfants, par exemple, on voit que le contexte est vraiment très différent de notre époque, en fait.
Thomas ?
Ce qu'on peut par contre palper, parce que comme tu dis, on ne voit pas forcément comme ça, les gens ne vont pas l'exprimer directement. Mais le fait de venir à une session, finalement, ils se sont accordés un temps. À un moment donné, ils se sont arrêtés, ils ont posé le stylo, ils ont posé tout ce qu'ils avaient à poser. Et ils se sont offerts mutuellement cette soirée ou ce week-end. Et là, déjà, ils vont goûter les fruits en sortant, enfin, dès le début, quoi. Hein. Et effectivement, alors dans les clés, hein, les fameuses clés, il y a ces moments de qualité. Donc, c'est pas forcément on va prendre 2-3 heures, tant pis, on s'occupe plus des enfants pendant 3 heures. Non, c'est des fois quelques minutes, c'est dans la manière d'avoir un petit instant de qualité dans le couple. Et déjà, c'est un beau cadeau qu'on se fait.
Prendre soin, quoi, finalement, tout simplement.
Oui.
Prendre soin de l'autre. Qu'est-ce que ça... Pardon, Hélène.
Non, ce que je voulais dire par rapport au fait de faire une soirée, une session, vivre et aimer, c'est que très souvent, dans le couple, il y en a un des deux qui va être plus motivé. Et du coup...
Qui va un petit peu traîner l'autre pour la session, c'est ça que vous voulez dire?
Exactement.
Et c'est ce que vous avez vécu?
Peut-être pas nous, mais on le voit souvent.
D'accord.
Et justement, que les deux disent oui, on va s'accorder ça, ben c'est un cadeau.
C'est déjà gagné.
C'est déjà
quoi.
Un cadeau.
Ouais, ouais. Ouais.
Qu'on se fait l'un à l'autre, en fait.
Qu'est-ce que ça change à la société quand, de prendre soin des couples, comme le fait le mouvement Vivre et Aimer? Comment les couples, l'état des couples embellissent la société? Je dis ça parce que dans le petit, il y a le petit dossier de presse qui présente donc ce mouvement. Il y a un petit paragraphe qui aborde cette question-là. Voilà, ce que les couples changent à la société. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que les couples changent? Les couples qui vont bien, qu'est-ce qu'ils changent à la société?
Alors on pourrait peut-être parler des fécondités du couple. Parce que souvent on dit la fécondité, ben là, c'est la fécondité biologique. Mm-hmm. Y a des couples qui n'ont pas d'enfants et puis... Même quand on a des enfants, ben le couple il a d'autres fécondités. Et c'est vrai que dans les engagements qu'on a pris en couple, ben je pense que le couple, il est signe d'amour pour la société. Et là, je pense que ce signe-là, on en a vraiment besoin aujourd'hui.
On va déjà arriver au terme de notre entretien. Pour terminer, on va faire un focus sur une soirée découverte que vous proposez, enfin que le mouvement propose et que vous relayez donc aujourd'hui sur notre antenne. Ça a lieu le jeudi 25 septembre prochain. Qu'est-ce qui va se passer ce jeudi 25 septembre, Thomas?
Alors c'est une soirée donc ouverte à tous les couples qui veut donc dans l'objectif effectivement c'est de faire découvrir alors non pas toute la pédagogie en 2 heures mais simplement 2 ou 3 clés pour pouvoir finalement prendre soin de son couple et lui donner des moyens de s'inscrire dans la durée, on va dire, bon, sans, en toute modestie, mais c'est vraiment ça l'idée, donc de faire découvrir l'approche et probablement de donner envie à tous ceux qui seront venus de peut-être creuser un peu plus sur cette voie.
Soirée découverte, les clés de l'amour durable, hein, c'est le titre de cette soirée donc du 25 septembre. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est une soirée qui est proposée un peu en réseau, si je puis dire, puisqu'elle est proposée en visio dans un tas de lieux en France. Et pour la suivre chez nous dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, il faut se rendre à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul, donc au 51 rue de Trénesse à Tarbes, à 20h, le 25 septembre. Voilà.
Exactement.
C'est bien présenté, c'est bon. C'est
voilà.
Ça voilà. Alors, pour participer, il faut s'inscrire quand même. Il faut
Exactement.
Que vous sachiez
oui.
Combien de personnes. Donc, comment on fait?
Alors, il y a un lien. Voilà.
Sur les affiches qui sont distribuées un petit peu partout, voilà. Dans les paroisses.
Mais à travers le site internet donc, du mouvement, on va retrouver cette session là, sur la première page d'accueil et tout est expliqué, les gens peuvent s'inscrire et choisir la ville, puisque effectivement, il y aura plus de 40 villes en France qui vont accueillir cette même soirée en même temps. Et donc les gens vont pouvoir choisir la ville où ils sont le plus proches.
Jusqu'à quand on peut s'inscrire?
Le jour même.
Jusqu'à le
25 septembre, on va dire, 18h.
Jusqu'au 25 septembre, 18h.
Par contre, si vous êtes très loin de Tarbes, vous pouvez aussi vous inscrire en visio. On peut participer en visio.
On n'est pas obligé de venir jusqu'à
Exactement.
La maison Saint-Paul.
Alors c'est vraiment préférable de venir parce qu'il y aura plus de dynamique.
Oui,
les couples vont se rencontrer. Mais si on est effectivement coincé avec des enfants, si on est loin de Tarbes, c'est mieux de faire en visio que pas du tout.
Voilà, alors là, ce message s'adresse directement notamment à ceux qui habitent dans les vallées les plus reculées de notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Elles peuvent, les personnes qui le souhaitent, peuvent participer à cette soirée du 25 septembre, comme déjà plus de 3,5 millions millions de couples. Vous aussi, osez l'expérience de l'amour durable. Voilà vraiment l'objectif de cette soirée découverte des clés de l'amour durable. Cette soirée est gratuite ?
Bien sûr.
Donc, ouverte à tous, gratuite, ouverte à tous les couples, gratuite. Inscription en ligne néanmoins obligatoire. Hélène et Thomas Barbier, merci beaucoup. Alors, ce qu'on peut dire quand même pour terminer, c'est que dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, aujourd'hui, début septembre 2025, vous êtes le couple représentant le mouvement Vivre et Aimer. D'autres couples pourront peut-être vous rejoindre par la suite.
Oui, on les attend avec impatience.
Voilà. Et comment fait-on pour vous joindre? Si bien parmi nos auditeurs, les uns et les autres ont des questions, comment fait-on?
Alors moi, Hélène Barbier, mon numéro est le 06 82 23 88 26.
06 82 23 88 26, c'est votre numéro, Hélène Barbier, pour vous poser toutes les questions sur le mouvement Vivre et Aimer. Et on indique quand même que, évidemment, la participation à cette soirée découverte du jeudi 25 septembre n'engage pas dans le mouvement Vivre et Aimer. C'est vraiment une session ouverte à toutes les personnes qui veulent des clés. Mais ensuite, elles sont libres de poursuivre ou pas avec le mouvement.
Exactement.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage et vos explications.
Merci beaucoup.
Radio Présence à Moissac 93.3.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace. Sinon celle du plaisir, savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence, sans murmure, ni défense, ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux, fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malade.
présence dans le Saint-Gaudinois, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le président israélien Isaac Herzog reçu ce matin en audience par le pape Léon XIV, un entretien